Mon corps,
mon accouchement.
Vous rêvez d'une naissance naturelle durant laquelle vous pourrez expérimenter la puissance de votre corps de femme ? Vous êtes au bon endroit. Je suis Laura Mbaye Hohenegge, sage-femme, plus que jamais engagée à vos côtés. Ce podcast vous donnera l'information et la confiance nécessaires et vous accompagnera dans votre chemin vers un accouchement physiologique. Laissez-vous inspirer, prenez confiance en vous et n'oubliez pas, dans la salle d'accouchement aussi, votre corps vous appartient. Naissance, cela sonne accueillant, chaleureux, vous ne trouvez pas ? Ce sujet me tient à cœur car ce lieu est celui du respect de la physiologie. Ces maisons dans lesquelles les femmes donnent naissance tendent à se développer en Europe. Et je tiens à proposer plusieurs épisodes à ce sujet pour vous présenter en détail ces alternatives aux surmédicalisés. Les maisons de naissance sont gérées par des sages-femmes de manière autonome. L'humain est au centre de la prise en charge. La femme et même le couple se rendront à des rendez-vous mensuels afin de rencontrer toutes les sages-femmes de l'équipe. Ainsi, ils pourront développer une relation de confiance avec celles qui seront là le jour J. Le principe est simple, un accompagnement global, pré, père et postnatal. L'accouchement est considéré comme un processus naturel et la femme comme un être autonome qui a en elle les ressources pour gérer les vagues des contractions. En maison de naissance, la péridurale n'est pas pratiquée puisqu'il n'y a pas d'anesthésiste. D'autant plus que le message prôné est donc l'autonomie et la confiance en son corps. Mais qui peut accoucher en maison de naissance ? La grossesse doit être physiologique, c'est-à-dire sans pathologie. Et la femme et son ou sa partenaire doivent être convaincus du projet. Bien sûr, la femme reste libre jusqu'au bout et peut demander à tout moment d'aller à l'hôpital. Mais à quoi ressemble une maison de naissance ? C'est un endroit cosy. On s'y sent comme à la maison. Les salles d'accouchement sont des chambres avec un grand lit, des couleurs douces, et elles sont équipées souvent d'une baignoire. Mais c'est aussi un endroit sécurisant avec un personnel formé et passionné. Le matériel médical nécessaire est présent, mais dissimulé, pour laisser cette impression de « comme à la maison ». Le jour de la naissance, les parents retrouvent une des sages-femmes qu'ils ont vue en prénatal et ils vont bénéficier d'un accompagnement individuel, une sage-femme pour une femme. Une deuxième sage-femme viendra au moment de la naissance. J'accueille aujourd'hui Eliette, qui a donné naissance de son petit Raphaël dans une maison de naissance. Bonjour Eliette.
Bonjour Laura.
Alors, tu as 30 ans, tu es maman d'un petit Raphaël qui est né en 2020. Pour toi, le projet de naissance en maison de naissance a été très vite une évidence et tu vas nous raconter dans cet épisode ta démarche. À Munich, il y a deux maisons de naissance, ce sont des structures gérées de façon autonome par des sages-femmes. Aller en maison de naissance signifie une prise en charge globale, pré, père et postnatale et un accouchement non médicalisé. Tout le monde ne peut pas accoucher en maison de naissance. On distingue les grossesses à bas risque et à haut risque obstétrical. Et évidemment, dans les maisons de naissance, on accepte seulement les grossesses à bas risque. Alors, je te remercie de m'accueillir chez toi pour le partage de ton expérience.
Avec grand plaisir.
Alors, comment est né ce projet bébé ? Est-ce que tu as toujours été attirée par la maternité ?
Alors, je dirais qu'il est arrivé assez tard. Je dirais peut-être une petite année avant que je tombe enceinte. Donc, je suis pas née en rêvant d'être maman. Ça, c'est arrivé assez tardivement chez moi. Voilà, j'ai laissé le temps aux choses, on va dire.
Oui. Ça faisait combien de temps que tu étais avec ton partenaire ?
Alors, quand on a commencé à vraiment sérieusement envisager de devenir parent, ça faisait déjà 10 ans. Mmh. Donc, ouais, 9-10 ans à peu près.
D'accord.
Je l'ai rencontré très jeune aussi, donc je pense que ça joue.
Ouais.
Voilà.
Et lui, son envie d'être papa?
Ah, c'est arrivé un petit peu plus tôt que moi. Et donc, voilà, j'ai laissé le projet germer et puis...
D'accord. Alors, en France, accoucher en maison de naissance est très marginal. Comment en as-tu entendu parler des maisons de naissance?
Oui, alors ça, c'est une petite anecdote assez marrante, finalement. Je cherchais la traduction du mot maternité et, en allemand et en entrant le mot dans un traducteur, ça m'a donné Geburtshaus, au lieu de me donner, en fait, les autres mots associés plutôt au monde hospitalier. Et donc, c'est vraiment par pur hasard que je suis tombée sur la maison de naissance. Voilà.
Oui, parce que c'est vrai que Geburtshaus, pour nos auditeurs, ça veut dire maison de naissance.
Oui, c'est la traduction vraiment littérale de maison de naissance.
Oui, donc c'était une heureuse coïncidence.
Tout à fait. Par contre, une fois que j'ai été à la session d'information, je me suis tout de suite reconnue dans ces démarches-là. Ouais. Et je pense que naturellement, j'aurais été encline à chercher ce genre d'établissement, ou au moins de chercher une maternité qui offrait des possibilités naturelles aux femmes.
Oui. Et tu as aussi visité d'autres maternités?
Oui, alors après, j'ai été voir du coup les maternités classiques, donc sous un angle plus médicalisé, et effectivement, la différence était notable et ça m'a pas forcément plu et je me suis pas du tout sentie à l'aise. En tout cas, je m'identifiais pas du tout à ce genre d'établissement.
Et puis ton partenaire, on peut dire son nom, Xavier?
Oui.
Du coup, il venait avec toi aux soirées d'information?
Oui, alors il est venu partout et effectivement, il avait été très enthousiasmé dès le début par la maison de naissance. Peut-être qu'il avait plus de réticence que moi au départ, mais globalement, il me soutenait dans cette démarche.
Et est-ce que dans ta famille et dans tes amis proches, l'accouchement non médicalisé est normal?
Absolument pas. non, pas. Voilà, étant française en plus, je pense que c'est pas quelque chose qui est encore très très courant en France. Donc beaucoup de gens n'en avaient même jamais entendu parler et voyaient pas forcément ça d'un œil très positif.
Ouais, il y avait beaucoup de peur autour de cette idée d'accoucher à maison de naissance dans un endroit non médicalisé, juste avec des sages-femmes.
Oui, il y a beaucoup d'appréhension sur les risques encourus pour la maman et pour le bébé.
Oui, bah, il y a cette, surtout en France, cette culture de la peur autour de l'accouchement. Hein. La sécurité, c'est l'hôpital. Alors voilà. Qu'en réalité, les études montrent que ce n'est pas le cas. Et que, en fait, l'important, c'est de vraiment faire la différence entre les grossesses à bas risque et les grossesses à haut risque.
Oui. Et je ne sais pas si je peux mentionner, mais c'est vrai que lors de la préparation à l'accouchement avec une sage-femme, on a déconstruit un petit peu tout ce qui se passait à l'hôpital. Et j'en étais presque arrivée à la conclusion, à la fin, que c'était plus dangereux d'accoucher dans un hôpital. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Comme les sages-femmes n'ont pas le temps de s'occuper des patientes, on le verra plus tard, mais vraiment comme dans une maison de naissance, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être détectées et qui peuvent s'avérer vraiment dangereuses par la suite, quoi.
Ouais, tout à fait. C'est vrai que en maison de naissance, c'est une sage-femme pour une femme. Alors qu'à l'hôpital, c'est une sage-femme pour environ 3 femmes qui vont accoucher. Effectivement, la sage-femme à l'hôpital, ce qu'elle peut faire concrètement, c'est qu'elle visite la femme aux heures. Donc, elle va rester 5-10 minutes dans la chambre, vérifier les constances et puis revenir l'heure d'après. Donc, ça, effectivement, c'est un vrai problème au niveau de la qualité des soins aussi. Et puis, la satisfaction aussi des sages-femmes et des femmes, des couples à l'hôpital. Donc c'est vrai que quand on a un projet en maison de naissance, c'est cette prise en charge individualisée, une sage-femme pour une femme le jour de l'accouchement. Donc et toi, comment s'est déroulé le suivi prénatal, Eliette?
Alors au début, comme j'étais encore indécise sur mon choix du lieu d'accouchement, j'avais fait ça de manière très conventionnelle et classique chez la gynécologue. Mais par contre, après, j'ai rapidement cessé les rendez-vous chez la gynécologue, sauf pour les échographies, bien sûr, qui étaient obligatoires, parce que le suivi prénatal, on peut aussi le faire avec les sages-femmes dans la maison de naissance. Peut-être que tu voulais expliquer comment ça se passe dans ces maisons de naissance en particulier, en tout cas.
Oui, ben justement, en Allemagne, comment ça se passe à Munich, en tout cas, ce sont des équipes. Donc, les sages-femmes travaillent en équipe de 5-6 environ, de sorte à ce que la future mère puisse rencontrer chacune d'entre elles durant sa grossesse. Ainsi, le jour de son accouchement, la future mère connaît déjà la sage-femme qui l'assistera pour la naissance de son bébé et se sentira davantage en confiance et en sécurité.
Oui, et effectivement, c'était très appréciable le jour de l'accouchement, je peux vraiment le confirmer. Lorsque j'ai appelé la Geburtshaus, d'avoir au téléphone quelqu'un, une voix familière que je connaissais, que j'avais entendue plusieurs fois, et on se sent beaucoup plus en sécurité, en fait.
Ouais. Et comment t'es-tu préparée à l'accouchement en maison de naissance ?
Alors, c'est vrai que c'est un processus, en tout cas, dans mon cas, ça a duré assez longtemps. Fallait déjà se préparer psychologiquement à accepter une naissance, naturel, c'est-à-dire aussi accepter les douleurs qui peuvent y être associées, enfin qui sont associées. Voilà, tout simplement, il faut quand même être réaliste. Puisque dans une maison de naissance, on ne peut pas procéder à la enfin on peut pas avoir de péridurale. Donc c'était quelque chose qui dans la théorie me convenait, mais comme c'était mon premier enfant, j'avais absolument aucune référence sur ce que ça voulait dire des douleurs d'accouchement. Donc j'ai fait une préparation à l'accouchement avec une sage-femme de l'établissement et avec mon conjoint Xavier. Et on nous a expliqué vraiment très très bien déjà qu'est-ce qui se passait lors de l'accouchement. Déjà pour comprendre physiologiquement ce qui se passait dans notre corps et pour dédramatiser aussi certaines voilà, la perte des os peut être quelque chose de traumatisant pour certaines personnes. Dans mon cas, ça ne l'a pas été. Les contractions à répétition ou alors il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer pendant la période d'accouchement. De comprendre déjà que tout est normal, c'est très important en amont. Et puis après, au niveau, je dirais, de la préparation plus physique, j'ai fait, en complément de la préparation avec la sage-femme, des cours de yoga pour apprendre à mieux respirer. Mmh. Et ça, c'est vrai que ça a beaucoup aidé. Ensuite, quelque chose, je ne sais pas si c'est spécial aux maisons de naissance, mais c'était d'accompagner avec la voix les contractions. Ça a beaucoup aidé aussi, ça. Ça aide à supporter la douleur. Voilà. J'ai des brides de souvenirs qui me reviennent assez précises de moments où, grâce au souffle et à la voix, on pouvait, je ne dis pas effacer la douleur, mais en tout cas la rendre supportable et passer la vague de la contraction sereinement.
Oui, tout à fait. Puis il existe aussi le chant prénatal qui, justement, c'est ça, c'est utiliser les sons, surtout les sons graves, pendant la contraction, des sons qui résonnent plus dans le bassin, qui détendent le corps pour pouvoir, passer cette vague, effectivement. Et alors, raconte-nous le jour J, la naissance de ton petit Raphaël, donc ce 20 janvier, à 6h34.
Oui.
Comment as-tu géré le début du travail? Quand es-tu rendue à la maison de naissance? Comment se sentait ton mari? Qu'est-ce qui t'a aidé à accepter les vagues des contractions? Voilà, sens-toi libre de nous décrire tes souvenirs et sensations ce jour-là.
Alors, je dirais que j'ai eu déjà énormément de chance parce que l'accouchement a été, je crois, pour un premier accouchement relativement rapide. J'ai commencé à ressentir les premières contractions vers 17h30 le 19 janvier et Raphaël est né donc à 6h34, donc environ 13h, on va dire. Et je suis restée à la maison jusqu'à 2h, 1h30, 2h du matin. Parce que jusqu'à là, les contractions étaient encore, la douleur était gérable, je m'en sortais bien. J'avais aussi essayé de faire ça dans un bain pour détendre un petit peu. Et ça allait. Et quand la douleur m'est devenue de plus en plus insupportable, là par contre, j'ai décidé quand même d'aller en maison de naissance. La sage-femme a d'abord vérifié la fréquence de mes contractions avant de me faire venir, parce que je crois que c'était l'indicateur comme quoi j'étais vraiment, le travail était déjà bien avancé. Et mon mari, lui, il m'a soutenu tout ce qu'il a pu, mais il était aussi un petit peu paniqué. Et donc, du coup, il a profité du fait qu'on soit encore à la maison pour dormir un petit peu, parce que nos amis de la préparation à l'accouchement, qui avaient déjà accouché auparavant, avaient eu des témoignages d'accouchement très longs. Donc, il s'était dit, si je veux tenir le choc, il faut que je dorme. Donc, voilà. Mais une fois qu'on a été accueillis à la Geburtshaus, c'est vrai que c'était assez magique, une ambiance, des lumières très tamisées, ce qui était l'inverse de ce que j'avais vu en tout cas à l'hôpital. Mm-hmm. Donc ça, c'était la première chose qui m'avait frappée. Il y avait aussi la possibilité d'avoir des huiles essentielles pour se relaxer. La sage-femme nous avait accueillis avec un thé. Pour Xavier, je sais plus, de l'eau pour moi, enfin, j'ai plus trop en tête les boissons, mais en tout cas c'était un accueil extrêmement chaleureux et tout de suite qui mettait en confiance aussi sur la suite. Et elle m'a tout de suite examinée, et puis ensuite elle m'a fait un massage, je me rappelle qu'il m'avait aussi pas mal aidée dans certaines contractions douloureuses. Elle m'a fait prendre un bain. Je rêvais d'accoucher dans l'eau, mais j'ai dû me rendre à l'évidence. Je suis tellement frileuse que même l'eau à 35 degrés, qui est censée être une température très chaude pour des contractions, était toujours trop froide pour moi. Donc voilà. Et quand les contractions se sont vraiment vraiment intensifiées et que la naissance approchait, finalement, on est retourné sur le lit. La sage-femme m'a toujours guidée, m'a toujours épaulée, vraiment, ça c'est, je tiens à le souligner parce que c'était très impressionnant. Elle me tenait constamment la main, elle regardait avec son petit appareil les pulsations du ouais. cœur.
C'est avec le Doptone, hein, pour vérifier la fréquence cardiaque fœtale.
Voilà, c'est ça, à chaque contraction. Elle écrivait aussi tout ce qui se passait. Et ça c'est aussi quelque chose dont je ne me rendais pas compte sur le moment, mais qui après m'a beaucoup émue, puisqu'en fait elle nous a remis, je ne sais plus, c'était quelque chose comme deux copies doubles qui racontaient mon accouchement, la naissance de Raphaël. C'est magnifique d'avoir un souvenir pareil. Voilà. J'ai le souvenir aussi que ce qui m'a aidée, c'était la visualisation mentale que la vague de la contraction, elle avait une fin. Et que la douleur n'était pas permanente. Ça aide beaucoup. Le fait d'avoir toujours ce regard, en fait, je dirais professionnel, qui est rassurant à la fois, en fait, de dire tout va bien, tout est normal, même si on a l'impression que notre corps se déchire en deux, quoi. Clairement, moi, c'était la sensation que j'avais sur le coup. Et en fait, elle m'expliquait, voilà, tout est normal, tout va bien. Et même si je la croyais pas sur le coup, il y avait quelque part quelque chose qui était quand même rassurant dans sa voix. Elle était pas stressée. Voilà, j'ai eu une belle naissance. Raphaël a eu une très belle naissance.
Et ton mari, comment a-t-il vécu cette journée-là?
Enfin, c'est lui, là, même. Oui. Alors, je dirais que de manière très intense, puisqu'il était avec moi pendant toute la durée. De l'accouchement en maison de naissance, il se fiait tout autant que moi à la sage-femme et il m'aidait dans toutes les contractions. C'est vrai que je pense qu'il a été très courageux aussi avec le recul, parce que je ne savais pas que j'avais de la voix. Je l'ai découvert pendant l'accouchement et je pense que j'ai dû lui faire très peur. Voilà.
Et donc tu as donné naissance sur le lit, hein, c'est ça?
Oui.
Oui. Et puis, tu lui expliquais, là, avant, dans notre petite interview privée, que du coup, la sage-femme t'avait aidé un petit peu à te mettre sur le côté pour que Raphaël naisse. Et puis après, tu l'as eu tout de suite en peau à peau.
Oui.
Ouais.
Ça, oui.
Ouais, je te laisse parler.
C'est vrai que c'était, C'était très impressionnant, enfin, c'était complètement surréaliste en fait, de voir ce petit corps du coup apparaître comme par magie, voilà, tout de suite être mis sur mon corps et de voir un petit être qui vivait, voilà, qui respirait déjà, qui criait, c'était... C'était vraiment magique. J'ai pas des souvenirs vraiment très précis parce que j'étais vraiment, je pense, dans un autre monde. Ouais, dans un état second. Donc je sais pas si c'est l'ordre chronologique, mais il me semble qu'on me l'a mis sur le ventre et qu'après, comme le placenta ne sortait pas, du coup, on a mis Raphaël sur Xavier. Je crois qu'on lui a fait couper le cordon. Chose qui n'est pas normalement souhaitée en maison de naissance, puisqu'en fait, normalement, si j'ai bien compris, lorsque le bébé est né, il y a un message chimique qui est envoyé via, du coup, le cordon ombilical qui signale au placenta « Je suis sortie, donc maintenant, tu peux toi aussi te détacher. » Et donc, le fait de couper le cordon trop tôt, ça casse ce message. Et après, bah, si on tire sur le placenta, ça peut être très dangereux parce qu'il peut ne pas arriver en un morceau. Donc voilà, ça c'était la théorie. Après, dans la pratique, je ne sais absolument pas ce qu'ont fait les sages-femmes. En tout cas, il a fini par sortir. Et voilà.
Oui. Alors, c'est vrai que par rapport à cette histoire de placenta, on préconise le clampage tardif. Mais c'est vrai qu'en maison de naissance, ce qu'on fait, c'est que bah, quand tout va bien, on attend, enfin, on laisse le bébé connecté à son cordon et au placenta. Et on attend que le placenta se détache naturellement. Après, c'est vrai qu'on voilà, on sait qu'il y a un risque hémorragique si on attend trop longtemps. Donc souvent, quand même, on met le bébé, quand le bébé il est en peau à peau, en fait, le bébé a un réflexe, hein, c'est le réflexe de fouissement. Il va chercher le sein. Et le fait que le bébé commence à téter, la mère va produire de l'ocytocine et aider à décoller le placenta. Donc peut-être que pour Eliette, c'est peut-être ce qui s'est un petit peu passé. Comme Eliette le dit, c'était un petit peu flou. Peut-être que je pense qu'elles ont dû tout le mettre au sein,
oui,
peut-être.
Je pense.
Après, voyons que le placenta ne se décollait pas. Bon voilà, elles ont mis le bébé avec le papa. Mais effectivement, c'est très intéressant ce que tu dis sur le placenta et sur le cordon. Et que en fait, plus on attend, mieux c'est.
Oui.
Comme ça, ça laisse le bébé, ça lui laisse le temps de s'adapter.
Oui. Oui. Et peut-être pour finir le témoignage sur le placenta, quelque chose, je crois, qui est aussi propre aux maisons de naissance, elles me l'ont présenté après.
Mmh.
Alors, je sais que ça peut dégoûter beaucoup, en fait. On nous en avait parlé avant l'accouchement. On nous avait expliqué aussi, quand même, qu'à la base, ce sont deux cellules et puis il y en a une qui choisit... qui se sacrifie en fait finalement pour nourrir l'autre et qui du coup à la naissance du petit être, eh ben, elle meurt. Et c'est vrai que c'était quelque chose, bon c'est peut-être très, très ésotérique comme conception, mais en tout cas j'avais trouvé une idée très, très jolie. Et puis les sages-femmes avaient loin d'avoir un dégoût, en fait un profond respect pour cette partie en fait qui se détache. Et donc ça c'était quelque chose de très émotionnel aussi, je pourrais le dire. Voilà, on nous l'a présenté. Après, bon, pour être honnête, on ne l'a pas gardé. Hein. Je sais qu'il y a pas mal d'us et coutumes par rapport à ça. Nous, on l'a jeté, mais voilà.
Oui. Oui, parce que en Allemagne, et encore plus dans les maisons de naissance ou à la maison, le placenta est la propriété des parents. Et que si les parents veulent le garder, il n'y a pas de problème, ils le gardent. Et puis après, il y a, voilà, comme dit Eliette, il y a plein d'us et coutumes. On peut l'enterrer, faire pousser un arbre, on peut...
Manger.
Oui, il y a aussi ça, le manger, faire de l'homéopathie, faire des gâteaux, faire... voilà, se mettre des herbes aussi, essayer de le conserver. Donc ça, on ne va pas rentrer dans les détails de tout ce qu'on peut faire avec le placenta. Mais voilà, c'est vrai qu'on peut garder son placenta. Alors, le jour de la naissance, la mère reste encore environ 3 heures après l'accouchement pour s'assurer de sa bonne santé ainsi que celle du bébé. C'est le postpartum immédiat. Comment s'est déroulé ce postpartum immédiat pour toi ?
Bah, c'est vrai que j'étais tellement dans un autre monde que j'oscillais entre l'épuisement et puis l'émerveillement. Tout ce que je sais, c'est qu'après m'avoir retiré le placenta, on a vérifié un petit peu les déchirures au niveau du périnée. Et après, tout a été très vite, en fait. J'ai pas... Quand on parle de 3 heures, oui, c'est vraiment 3 heures qui se sont écoulées, mais j'avais l'impression que c'était 10 minutes. J'ai le souvenir qu'on se soit habillé relativement rapidement et qu'on soit parti avec un taxi pour rentrer chez nous. Je crois que si dans les 3 heures aussi, ils ont fait des soins à Raphaël. Ils l'ont pesé
Oui.
et ils l'ont mesuré.
Oui, il y a oui,
Mais
voilà.
j'étais pas à côté quand ça s'est fait. J'ai pas trop suivi. Mais en tout cas, voilà. Enfin, la plus belle chose pour moi après ces 3 heures, ça a vraiment été le retour à la maison avec ce petit être-là dans les bras qui, 3 heures plus tôt, était encore dans mon ventre. Et puis là, il se retrouvait dans un lit à côté de nous. Voilà, c'était très impressionnant.
Et tu as réussi à dormir cette nuit-là?
Oui, alors ce qui était merveilleux, c'est qu'on avait mis un réveil parce que comme il faisait moins de 3 kilos à la naissance, il fallait qu'on le réveille s'il se réveillait pas naturellement pour demander à téter toutes les 2 heures. Et en fait, on se réveillait tous les trois en même temps. Il dormait sur son papa, qui lui, du coup, ne dormait pas parce qu'il était très stressé de faire tomber son bébé. Et voilà. Et donc, naturellement, je crois que les hormones font quand même jouent pas mal en notre faveur après l'accouchement.
Ah oui, ça c'est sûr. Et puis, le postpartum, tu l'avais préparé?
Alors, on m'en avait beaucoup parlé, et notamment de la dépression postpartum. Donc, nous, on avait essayé, j'avais beaucoup lu sur le fameux quatrième trimestre, qui est considéré du coup aussi comme le trimestre où, voilà, on devient maman, et presque comme une suite, voilà, des 3 trimestres de grossesse. Donc, nous, on avait préparé au sens où je m'étais beaucoup renseignée sur l'alimentation que je devais avoir pour pouvoir bien allaiter et éviter toute carence. Comme il y a tellement de changements hormonaux après l'accouchement, on a vite fait en fait d'être en manque de fer et de certaines choses essentielles pour notre organisme. Donc j'avais beaucoup cuisiné en amont et j'avais vraiment apprécié mon fondant au chocolat qui m'attendait dans le congélateur le jour J. Et voilà, donc c'était une préparation. Et puis j'avais aussi préparé pas mal d'huile essentielle et de. Enfin, pas d'huile essentielle pour le bébé, bien sûr, mais de soins réparateurs pour le ventre. Et à la Geburtstag, c'est vrai qu'ils nous donnaient aussi beaucoup de produits qui aident justement tant au niveau du périnée que du ventre que de la poitrine à se remettre de toutes les suites de l'accouchement.
Et considères-tu pratiquer le maternage proximal? Comme son nom l'indique, le maternage proximal consiste pour la mère à se mettre à l'écoute des besoins du bébé qui vient de naître, en lui offrant une proximité presque constante via l'allaitement maternel, le pot à pot, le cododo, le portage, etc.
Oui, alors effectivement, dans les faits, c'est exactement ce qu'on a fait. Les 3 premières semaines de sa vie, Raphaël, il a même dormi sur donc le torse de son papa. On l'avait recommandé à la maison de naissance. Et puis ensuite, je l'avais allaité exclusivement aussi jusqu'à ses 6 mois. Et je l'ai allaité en tout pendant un an. Le pot à pot, je l'ai fait beaucoup au début. Après, comme je l'ai déjà mentionné, je suis très frileuse et j'ai accouché en hiver. Donc je ne l'ai peut-être pas fait aussi souvent que si j'avais accouché en été, je pense. Le cododo, bah donc après ces 3 semaines, il a dormi dans un petit lit de cododo pendant jusqu'à ses 7 mois. Et le portage, je l'ai fait aussi beaucoup, mais pas forcément sur des longues périodes en fait, parce que j'avais souvent mal au dos après. Donc ouais, mais j'ai quand même utilisé beaucoup beaucoup le porte-bébé et je l'utilise, on va dire. Ouais, de temps en temps encore pour l'endormir en ce moment, mais très rarement.
Et globalement, alors les premières semaines en famille, comment tu décrirais ça?
Alors, on a bénéficié peut-être le fait de vivre très loin à l'étranger, de cette chance de pouvoir passer les 2 premières semaines de vie de Raphaël tous les trois. Ça, c'était magnifique parce que en Allemagne, on a un suivi. Médical, enfin en tout cas avec des sages-femmes pendant les 2 semaines qui suivent l'accouchement, qui est quotidien et régulier. Et donc du coup, la seule visite qu'on avait, c'était la visite de la sage-femme. Donc ça, c'était merveilleux. Après, ce qui était peut-être un petit peu plus dur, c'est peut-être le revers d'avoir accouché en maison de naissance, je ne sais pas. Mais c'est que j'avais dû aller faire des tests. Comment ça s'appelle? Comme j'étais rhésus négative.
Oui, donc l'injection de Rofilac. Ouais.
Voilà. Donc ça, j'avais dû aller le faire le lendemain de l'accouchement. C'est vrai que je me serais bien passée d'aller à l'autre bout de la ville pour ce genre d'intervention. J'aurais préféré que ma sage-femme le fasse. Et puis, j'avais dû aussi aller chez le pédiatre pour faire les examens du 3e au 10e jour, la Hautsfeil en allemand. Effectivement, pareil, je l'ai faite beaucoup trop tôt. Enfin, je l'ai fait au 3e jour alors que j'aurais pu attendre le 10e. Parce que, bah oui, après l'accouchement, on ne peut pas tenir en position debout pendant très très longtemps. Et ça, j'avais pas assez pris en compte. Et donc, voilà. Oui. Mais hormis ces petits désagréments, je dirais que les premières semaines en famille étaient vraiment magiques parce qu'elles avaient été préservées. On avait pu faire notre cocon à trois.
Et en même temps, tu me parlais d'une ambivalence entre du magnifique, mais beaucoup de fatigue.
Oui. Alors peut-être que ça, c'était amplifié par l'allaitement. J'ai eu un début d'allaitement malgré le fait que l'accouchement soit très bien passé. Le début de l'allaitement a été extrêmement douloureux pour moi et donc très difficile et très angoissant, je dirais d'une manière générale. Ça a duré vraiment longtemps en plus. Bon, normalement, on dit que c'est les premières semaines. Chez moi, je dirais que ça a bien mis 2 mois avant que l'allaitement se mette véritablement en place et que je puisse allaiter sans craindre la douleur. Donc, voilà, Enfin, c'est possible, j'ai finalement allaité 1 an, donc à la fin, ça me faisait plus mal. Et ça, je tiens à souligner pour ne pas décourager. Mais c'est vrai que la sage-femme, elle a usé de beaucoup de techniques pour m'aider à allaiter au début. Ouais.
Et quelle était la confiance que tu avais en toi vis-à-vis de ton bébé?
Alors, elle n'était pas forcément... En fait, j'étais... Là où j'ai vraiment eu confiance en moi, c'était de m'apercevoir ce dont j'avais été capable lors de l'accouchement. De mettre un enfant au monde et de le mettre de mettre au monde de la manière la plus naturelle qui soit, ça m'a vraiment fait... Oui, j'étais... Pour la première fois de ma vie, j'étais vraiment fière de moi et donc sûre de moi. Après, la confiance en moi par rapport à Raphaël, elle a mis un petit peu de temps à se mettre en route. J'avais peur de lui faire mal, j'avais peur de... C'est tellement un être minuscule au début que voilà, j'étais assez gauche dans mes mouvements et assez peu assurée. Et puis au fil du temps, ça s'est amélioré et la confiance est venue. Je pense que quand j'ai commencé à voir qu'il prenait du poids quand je l'allaitais et que l'allaitement commençait à moins me fatiguer, à moins me faire mal... Là, j'ai peut-être commencé à prendre confiance.
Et puis, si tu avais un deuxième enfant, aimerais-tu revivre un accouchement en maison de naissance?
Ah oui, absolument. Alors, je m'inscrirais tout de suite en maison de naissance. Mais j'oublie pas aussi que je devrais recommencer la préparation mentale quasiment à zéro. Parce que c'est pas parce que j'ai réussi une fois que je me sens forcément d'emblée de jeu capable de le faire une deuxième fois, puisque je connais aussi maintenant du coup la douleur et puis la longueur, parce que même si moi d'après les statistiques j'ai eu un accouchement court, pour moi 13 heures c'était quand même très long, de 13 heures de douleur, et voilà, je pense qu'il faudrait repasser par toutes ces cases qui sont essentielles du suivi prénatal en fait.
Oui, absolument. Hein. C'est pas parce qu'on a 2, 3, 4 enfants qu'après ça devient simple. Ça revient. Hein. Les femmes, elles le disent. Voilà, il y a des peurs qui reviennent, de l'accouchement, des souvenirs. Et oui, de refaire cette préparation mentale, cette préparation physique pour accueillir son bébé de façon optimale.
Oui, tout à fait.
Et penses-tu que le fait de vivre à l'étranger t'a aidé à concrétiser ce projet? Penses-tu qu'il t'aurait été possible de vivre cette expérience en France?
Alors, je pense que j'aurais cherché ce genre d'expérience en France, je pense. Mais le fait de vivre à l'étranger a certainement facilité cette démarche. Parce que l'Allemagne et la France, ce sont peut-être deux pays voisins, Mais les cultures, elles sont très différentes et la conception de la maternité est vraiment radicalement
Oui.
différente, hein, faut quand
Oui,
même le
je
dire.
suis tout à fait d'accord.
Si je prends ne serait-ce que l'aspect de l'allaitement comme exemple, en France, on n'est pas encore, je dirais, dans une démarche d'allaitement. Enfin, c'est pas prôné, en tout cas, d'emblée de jeu, comme étant quelque chose d'essentiel, alors qu'en Allemagne, une femme qui n'allaite pas, elle est vraiment regardée comme quelqu'un de bizarre.
Et puis l'allaitement long,
Ah oui.
c'est-à-dire que allaiter 6 mois, c'est court en Allemagne.
Oui, c'est le minimum syndical, en fait, ici.
Oui. Et puis après, il y a tout le système de garde, c'est voilà les congés maternité, mais plutôt les congés parentaux qui sont
Oui.
plus longs. Après, moi je trouve que c'est toujours bien d'avoir le choix. Et d'avoir cette possibilité-là. C'est vrai qu'en France, reprendre le travail après 3 mois, c'est 3 mois après avoir accouché, c'est quand même court.
Oui.
Et puis, bon, voilà, en Allemagne, on a plus le choix. C'est-à-dire que si on a envie de reprendre le travail, eh ben, on peut partager le congé parental avec le père. C'est vrai que trouver une garde, c'est compliqué, hein, avec un bébé aussi jeune, mais bon, il y a le papa ou il y a la famille. Après, la plupart des femmes, je dirais, elles prennent 1 an de congé parental et ça, c'est assez banal. Et même les papas, il y en a beaucoup qui prennent des congés parentaux, 1, 2 mois,
Peut-être ce qu'on
voilà.
peut préciser sur ces congés, c'est que je dirais la grande force de l'Allemagne à ce niveau-là, c'est qu'il y a quand même 14 mois en tout à partager en deux ou
Oui,
à
voilà.
prendre soi-même, mais qui sont payés.
Oui.
Et ça, c'est pas un aspect négligeable. Je pense qu'en France, il y a beaucoup de gens qui aimeraient prendre des congés plus longs, mais le système ne le permet
Oui.
pas. Parce que de un, il faudrait démissionner de son emploi. Il n'y a pas cette possibilité de conserver un emploi sur une durée aussi longue. Et puis deuxièmement, il n'y aurait plus d'apport financier pour la personne qui resterait à la maison. Je pense que tout le monde ne peut pas se le permettre.
Oui, effectivement.
En
Ouais.
Allemagne, on a vraiment un cadre qui permet aussi du coup un allaitement long. Parce que l'allaitement, c'est épuisant. On ne peut pas réfléchir une journée de travail normale et allaiter à temps plein. C'est pas, enfin, moi, en tout cas, je trouve, pour moi, ça n'aurait pas été possible. Et j'aurais certainement pas allaité aussi longtemps si j'avais pas pu prendre cette année de congé. Et si je n'avais pas eu l'aide de mon mari dans les premiers mois, qui du coup s'occupait de tout dans la maison pour permettre, en fait, me permettre de m'occuper exclusivement de l'allaitement de Raphaël. Et voilà.
Ouais, effectivement. Donc voilà, le congé parental est de 14 mois s'il peut être partagé entre les deux parents. Puis après, libre à chacun de choisir combien de temps prend la mère, combien de temps prend le père. Alors, celui qui prend le congé parental n'est pas payé à 100%, mais quand même reçoit, je crois, 66% de
Oui.
son salaire. Donc, voilà, ça peut quand même être avantageux.
Et on reçoit aussi en plus d'autres aides de la part de
Oui.
l'État.
Oui.
Donc
Oui,
finalement, on s'en
l'équivalent
sort.
des allocations familiales, mais plutôt généreuses.
Voilà.
Oui. Et comment ton entourage a-t-il réagi en apprenant ton projet d'accoucher en maison de naissance?
Alors, je dirais que avec beaucoup de craintes, beaucoup d'appréhension, un peu, je dirais, d'incompréhension. Mais alors l'incompréhension, on l'a plus fait ressentir à Xavier qu'à moi. Moi directement, on m'a juste exposé des risques et des craintes pour ma santé et pour celle de Raphaël. Donc voilà. Après, je dirais que mes amis proches, ma famille ont accepté mes choix et n'ont rien eu à redire. Mais c'est vrai qu'au début, voilà, comme moi, j'étais pas forcément sûre non plus de mon choix au début, forcément, tout le monde m'a plutôt tirée dans le sens, d'un accouchement très médicalisé.
Ouais. Et que conseillerais-tu à une amie qui souhaiterait aussi mettre son enfant au monde en maison de naissance?
Alors du coup, enfin, en répondant voilà, par rapport à la question précédente, je dirais de faire confiance en fait aux sages-femmes des maisons de naissance qui, voilà, si elles nous disent droit dans les yeux que notre grossesse n'est pas à risque et qu'elles nous font confiance et qu'elles savent qu'on peut y arriver, que notre corps, il peut y arriver, et ben en fait, il faut leur faire confiance, il faut y croire. Parce que elles sont des professionnelles, c'est leur métier, elles savent ce qu'elles disent. À l'inverse, en fait, tous les commentaires qu'on entendra, même des gens les plus bienveillants et les mieux intentionnés, ne pourront pas surpasser des avis médicaux tels que ceux des sages-femmes.
Oui, parce que souvent, les gens projettent aussi leur propre peur.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Donc, et puis, puisque la norme, c'est actuellement l'accouchement à l'hôpital, voilà, on a cette image que c'est l'endroit le plus sécurisé, sécurisant pour accoucher et qu'il n'y a pas d'autres alternatives. Et qu'en fait, bah, avec ce podcast, et bah, j'aimerais montrer qu'il y a plein de femmes qui ont des projets différents d'accouchement à la maison, en maison de naissance, des projets un peu plus alternatifs à ce que l'on voit en fait majoritairement et que ça se passe bien. Parce que les sages-femmes, bah, voilà, nous, donc, bah, nous avons une formation médicale et nous savons faire la différence entre la prise en charge d'un accouchement, enfin d'une grossesse déjà physiologique, d'un accouchement physiologique, et puis de pouvoir diagnostiquer et détecter la pathologie. Et on ne prendra jamais de risque. C'est-à-dire que dès qu'on suspecte quelque chose d'anormal, notre intérêt, c'est toujours la sécurité de la femme et de l'enfant.
Oui. Ouais.
Donc, merci, Eliette. C'était très intéressant. Merci pour ce partage de ce projet en maison de naissance, enfin de ce projet qui s'est concrétisé.
Oui, oui. Merci à toi, Laura, pour cette interview et puis pour m'avoir donné la parole pour parler en faveur de maison de naissance. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que c'est un cadre idyllique pour mettre un enfant au monde. On a l'impression d'être à la maison, le cadre est vraiment propice, on se retrouve dans une chambre agréable et accueillante, qui donne envie d'y mettre au monde son enfant. C'est très 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 agréable et je le recommande très vivement et très chaleureusement à chaque femme qui a envie de mettre ce projet vraiment en route.
Ouais. Nous souhaitons vraiment que les maisons de naissance se développent sur tout le territoire français, mais pas que, un petit peu partout en Europe, et que ça devienne, que ça devient normal d'accoucher en maison de naissance.
Oui.
Oui. Et que les médecins aussi, aient moins peur, en fait, de ces maisons de naissance. Parce que ça répond vraiment à un besoin des femmes. Les femmes recherchent de plus en plus d'alternatives à l'accouchement à l'hôpital et il faut de tout pour tout le monde.
Oui. Et puis, peut-être, je voulais juste préciser qu'une maison de naissance n'a peut-être pas de péridurale, mais il y a quand même tout un suivi qui suit vraiment la naissance immédiate qui est aussi mis en place. S'il y a un problème quelconque avec le bébé, tous les appareils sont là. C'est quand même, faut quand même le préciser, s'il y a quoi que ce soit qui leur paraît anormal, elles sont directement en relation avec l'hôpital et l'ambulance est là dans la minute qui suit. Donc il y a quand même c'est pas parce qu'ils ne travaillent pas ensemble qu'ils travaillent l'un contre l'autre. Je pense que ça peut rassurer aussi pour des personnes qui hésitent, tenais à le dire.
Oui, tout à fait. Et puis aussi, au moment de l'accouchement, si la femme veut aller à l'hôpital parce que, par exemple, elle n'arrive plus à supporter la douleur, qu'elle souhaite vraiment une péridurale, c'est toujours possible, en fait. Le transfert est toujours possible. Et justement, un des critères d'une maison de naissance, c'est d'être vraiment à quelques kilomètres d'un hôpital. Et elles sont en lien, en fait, avec plusieurs hôpitaux. Et que le dernier mot doit revenir à la femme, au couple.
Oui.
Merci, Eliette.
Merci à toi, Laura.
De rien, c'était un plaisir. Eliette a eu la gentillesse de nous raconter son cheminement vers la maison de naissance. Et je voudrais, pour conclure cet épisode, faire un rapide état des lieux des maisons de naissance. Les premières maisons de naissance ont vu le jour aux États-Unis dans les années 1975. En Europe, la première maison de naissance a été créée en Allemagne en 1985. Ce pays compte aujourd'hui environ 150 maisons de naissance. En 1986, une maison de naissance voit le jour aussi en France, mais sera fermée malheureusement 13 ans après. Entre 2015 et 2021, 9 maisons de naissance ont été en expérimentation en France. Les résultats ont été très positifs et le gouvernement affiche à ce jour, en 2021, l'objectif de créer 12 maisons de naissance supplémentaires. De plus en plus, les femmes revendiquent le libre choix du lieu d'accouchement. Accoucher en maison de naissance est aussi sûr que d'accoucher à l'hôpital.
Mon corps, mon accouchement. Un podcast de Loram by Honegger
et Aline Profi.
Musique d'introduction, David Aubin. Musique du générique, René Auréa.
Pour approfondir et prolonger votre réflexion, retrouvez nos articles et liens sur notre site mernature.org.
Et pour recevoir de nouveaux épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme préférée. N'hésitez pas à partager si cela vous a plu et à nous mettre 5 étoiles.
Écrivez-nous, nous sommes aussi sur Facebook et Instagram.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué au podcast et à bientôt.
Bon, je crois que pas besoin de la feuille.
Ah, j'ai oublié.
Bon, de toute façon, on laisse tourner.
Je compte jusqu'à 3. Du coup, je fais 3 avec mes doigts comme ça, on va être synchronisés.